Métaphysique, Père Philippe, Saint-Joseph, 30 octobre 84.
Nous allons continuer d'entrer en philosophie première, en essayant de comprendre l'importance de ce dévoilement du jugement d'existence. Je vous l'ai déjà dit, on le reverra souvent, parce que il faut comprendre que tout le développement de la philosophie première reste lié à ce jugement d'existence. Et c'est pour ça que c'est si important. C'est l'enracinement, si vous voulez, de toute la philosophie première. Du reste, un point de départ, c'est ça. C'est à partir de là que commence toute l'analyse. Il n'y a pas de coupure après. Alors, évidemment, il y a des développements, il y a des analyses, il y a une recherche, mais il n'y a pas de coupure. Alors, deuxièmement, bien comprendre comment l'intelligence, plus exactement, à partir du jugement d'existence, s'éveille en nous un certain état d'admiration parce que nous nous apercevons que ce jugement d'existence peut regarder toutes les réalités que nous expérimentons et nous-mêmes et qu'il s'exprime toujours de la même façon. Ceci est, alors la très grande diversité des ceci, et en même temps quelque chose qui est toujours le même, ceci est. Quand je dis toujours le même, en comprenant bien, est-ce que c'est toujours le même? Puisque quand je dis l'être à l'homme, l'être à la vache, l'être prend chaque fois une modalité différente. Ceci est, l'homme existe, j'existe, le chat existe. Alors, comment se fait-il que c'est toujours le même mot qui est exprimé, le même verbe? Alors, est-ce que la signification de ce verbe va se modifier ou ne va pas se modifier? Parce que le même mot peut être exprimé tout le temps de la même façon, mais est-ce que c'est toujours la même signification? Que représente la signification exacte de ce verbe être exprimé qui s'attribue à toute cette très grande diversité? C'est là où je vous disais, on pourrait situer, ce serait intéressant à voir. Je ne veux pas le faire maintenant parce que c'est un problème secondaire, mais ce serait intéressant pour ceux qui aiment beaucoup Maritain de situer l'intuition de Maritain, l'intuition de l'être. Est-ce qu'elle n'est pas là à situer? Est-ce que ce n'est pas justement ce fait que l'être est dit de diverses manières? Et cette intuition va faire naître en nous cette admiration. Et à partir de l'admiration, l'interrogation. Je vous avais dit qu'il fallait bien comprendre ce moment affectif. C'est le moment affectif, l'admiration. Et le point de vue autre affectif de l'angoisse. Comment se fait-il que nous avons ce parallélisme entre le point de vue de l'angoisse et l'admiration, qui sont comme deux attitudes extrêmes au point de vue affectif, et qui expriment, je crois, en gros, deux attitudes tout à fait différentes au point de vue philosophique. L'attitude des Grecs et l'attitude des modernes. Du moins, de certains modernes. Mais qui est quand même assez universalisée. Qu'on voit et que Heidegger met très en lumière. Alors, c'est quand même très important de saisir ce changement de perspective par rapport à l'homme. Ce n'est pas directement l'intelligence qui est en cause, mais c'est l'homme qui est en cause. Et comme la philosophie parle à l'homme, c'est quand même très important de comprendre comment, chez les Grecs, c'est l'admiration. Et comment, pour Heidegger, c'est l'angoisse. Et alors là, il faut essayer, il faut y réfléchir à ça. C'est un, je dirais, c'est un chantier très important. Il ne faut pas passer trop vite là-dessus. Je passe vite dessus. Mais pour nous, c'est important d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'admiration. Comment s'éveille en nous l'admiration? Il y a une admiration artistique, une admiration affective, une admiration... Comment s'éveille en nous cette admiration, cet état d'admiration en face de ce jugement d'existence, ceci est? Je crois que toute admiration provient du fait qu'on connaît quelque chose et qu'en même temps, on est en face de quelque chose qui nous dépasse. L'admiration ne peut naître qu'à partir d'une certaine grandeur. On est en état d'admiration quand on est en face de quelque chose qui vraiment nous transcende. Et justement, ce point de vue de l'intuition de l'être telle que nous l'avions comprise montre bien qu'on est en présence de quelque chose qui transcende toutes les catégories. On est en face de la signification de quelque chose qui dépasse toutes les catégories. Le verbe être a une signification qui n'est plus catégoriale, qui est au-delà de toutes les catégories. Alors évidemment, si je ramène la signification uniquement aux catégories, les 10 catégories, hein, n'oubliez pas, si je ramène la signification uniquement au niveau des catégories, je dirais l'être n'a pas de signification. Alors pourquoi employer ce mot? Alors on peut dire évidemment, comme disent certains, et que la logique l'a dit, ce n'est que copule. C'est-à-dire uniquement, quand je dis Pierre est intelligent, ça veut dire Pierre intelligent. Je fais tomber les deux. Quand je dis Dieu est amour, Dieu amour, je laisse tomber et en disant, ce n'est que le besoin grammatical, le besoin de qui a ajouté cela, ça ne veut rien dire. Alors, là il y a un problème très important et difficile à bien comprendre, que l'intelligence n'est pas limitée à la recherche quiditative de la réalité. Parce qu'au fond, c'est cela le problème. Au point de vue critique, ce serait le fameux problème entre l'appréhension, c'est-à-dire l'intelligence qui saisit, l'intelligence est capable, elle saisit, l'intelligence qui saisit telle détermination. Elle saisit par exemple la qualité, telle qualité, et puis le jugement. Quand je dis simplement ceci, je suis en face de telle qualité, de telle détermination. Et quand je dis ceci est, il y a un jugement. Puis-je ramener le jugement à l'appréhension? Ou est-ce que le jugement implique autre chose que l'appréhension? Vous voyez, c'est là le problème critique. C'est là l'os qui est difficile à bien comprendre. Hein. C'est que c'est vrai, mon intelligence aime de définir. Mon intelligence aime de définir. J'aime bien définir, et les gens disent, qu'est-ce que ça veut dire ça? Définissez-moi ça. Très bien. Est-ce qu'on peut tout définir? Cette petite phrase remarquable d'Aristote, on ne définit pas tout. Tout n'est pas définissable. C'est très important, ça. Quand on définit quelque chose, on définit par genre et différence spécifique. Animal, je prends la seule bonne définition que nous avons, n'est-ce pas ? Animal raisonnable. Et ça, c'est l'homme. Vous êtes très avancé quand vous avez dit ça, vous avez compris tout à fait l'homme. Vous l'avez compris logiquement. Alors, quand on dit la définition des philosophes qui disent que l'homme, c'est l'animal raisonnable, dites non, c'est une définition logique. Pas plus. C'est une définition logique qui me permet de classer l'homme, animal raisonnable, genre et différence spécifique. C'est très très bien, je définis par là. Mais la compréhension que j'en ai est une compréhension assez extérieure. Ça ne va pas très loin, parce que je classe. Classification, c'est ce que fait la logique classe, c'est très bien, elle doit classer, c'est très important, mais ce n'est pas ça qui me fait pénétrer profondément dans la réalité. Donc, il faut comprendre cette fonction d'intelligence qui définit. La définition, c'est la recherche de ce qu'est la chose dans sa quiddité. On verra ce que c'est que la quiddité, hein, parce que je ne vais pas expliquer ça tout de suite, ça nous emmènerait trop loin. Mais c'est l'intelligibilité essentielle de la chose. Quand je vous définis homme, quand je définis Pierre, homme, Pierre est beaucoup plus que homme. Mais l'essentiel de Pierre, c'est d'être un homme. Ça, c'est vrai. C'est l'essentiel de Pierre. Mais il est un homme de telle ou telle manière. Il est un homme de telle ou telle façon. Alors ça, c'est des modalités particulières qui viennent s'ajouter et qui ne sont pas dans la définition. La définition regarde l'intelligibilité essentielle d'une chose. Celle qui est fondamentale par le genre et celle qui est ultime par la différence spécifique. Et alors je peux de cette manière définir. C'est très important de définir, mais c'est une activité qui est première pour la vie de l'intelligence. Je ne suis pas encore en philosophie quand je définis. La définition n'est pas philosophique. C'est très curieux. La définition n'est pas philosophique. Elle est importante. Elle permet une première approche. Elle déblaye le terrain. Elle fait des avenues. Comme connaître une forêt en faisant des avenues. Je connais quelque chose en faisant des avenues, mais je ne connais pas la forêt. Pour connaître la forêt, il faut s'y perdre. Hein, et puis revenir après. Alors, on connaît la forêt. Mais si vous faites uniquement des avenues, des définitions, je déblaye le terrain. Le bulldozer passe, je connais tout. Mais non, vous ne connaissez rien du tout. Vous connaissez uniquement une avenue, une définition. Alors, l'appréhension, c'est une activité primordiale de l'intelligence, première, mais c'est une activité qui n'est pas parfaite. L'activité parfaite de l'intelligence, c'est le jugement. Or, dans le jugement, l'intelligence cherche à connaître autre chose que les déterminations. Par le jugement, l'intelligence cherche à connaître autre chose que la quiddité. Elle cherche à connaître ce qui est. Elle cherche à connaître le verbe que j'attribue au nom. Et elle connaît le nom et le verbe. C'est ça qui est merveilleux. Elle connaît le nom et le verbe dans le jugement. Or, les déterminations, ce n'est même pas le nom. J'ai dit tout à l'heure, Pierre ne peut pas se ramener à homme. Or, Pierre, c'est le nom. Le nom est plus que la quiddité. Et le verbe est plus que la quiddité. Vous voyez, le double dépassement. Il y a un double dépassement dans le jugement. C'est pour ça que je ne peux pas ramener le jugement à l'appréhension. Et je ne peux pas ramener ma vie intellectuelle aux définitions. Ramener ma vie intellectuelle aux définitions, c'est uniquement vouloir préciser et demeurer dans une très grande clarté. C'est que Descartes, il aime bien la clarté. Et quand on aime bien la clarté, on aime de définir. Mais attention, hein, faut jamais oublier la phrase de bon père Gardel, quand il écrit la structure de l'âme, il y a deux manières d'écrire. D'une manière superficielle et claire, et d'une manière profonde et obscure. Alors il donne magnifiquement le point de vue de la prévention et du jugement. Vous voyez, je comprends très bien ça, c'est très très joli de dire ça. D'une manière superficielle et claire, alors je définis, c'est très propre. On a des avenues. Vous définissez la forêt par les avenues. C'est très très bien. Et vous croyez tout connaître. Il y a une manière profonde qui est toujours un peu obscure. Alors, ça, c'est le jugement. Alors, on essaie de saisir, au-delà de la définition, les principes. Et les principes ne se définissent pas. Les principes, c'est un au-delà. C'est une connaissance qui va plus loin. Et déjà, vous voyez, ce dépassement de l'appréhension, ça fait déjà le niveau du jugement, par le point de vue du non-univers. Et le jugement va conduire à un jugement particulier, on va voir la saisie des principes. Donc vous voyez tous les dépassements qui se font par rapport à la définition. Le premier dépassement, c'est le nom et le verbe. C'est le verbe et le nom. Parce que je crois que c'est en saisissant le verbe que nous saisissons le nom. Et les deux se saisissent en même temps. Alors c'est le verbe et le nom. Puis, un nouveau dépassement qui se fait au niveau de la saisie des principes, ce que nous verrons ensuite. Mais c'est simplement ici pour que nous essayions de mieux comprendre comment il y a dans l'intelligence une interrogation qui va naître à partir de l'admiration. Quand je saisis le jugement d'existence, je vois que le verbe être a une signification transcatégorial. J'emploie exprès ce mot-là pour vous mettre dans la stupeur. Transcatégorial, c'est-à-dire au-delà des catégories. Quelque chose qui est au-delà des catégories. Je ne peux pas ramener le verbe être aux catégories. C'est énorme déjà de penser ça. De le penser, hein, pas simplement de le dire, mais de le penser, de comprendre que le verbe être est au-delà de toutes les catégories. Il y a une signification nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette signification? Je suis en admiration devant ça. C'est admirable de voir que l'exister est présent dans toutes les catégories, mais qu'il est au-delà. L'être est présent dans toutes les catégories. C'est l'être à l'homme, c'est l'être au blanc, c'est l'être à la quantité, c'est l'être... L'être est présent dans toutes les catégories, mais l'être est au-delà de ces catégories. Et donc ça éveille en moi, dans une intuition, ça éveille en moi cet état d'admiration. Et cet état d'admiration me conduit à l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez bien là l'enchaînement qu'il faut bien saisir. Alors pourquoi l'admiration a-t-elle été remplacée par l'angoisse? Ça, c'est une question très intéressante pour connaître une certaine position philosophique. Et pour connaître un peu la mentalité de beaucoup de philosophes d'aujourd'hui. Comment se fait-il que cette admiration, qui me semble si normale au fond, quand je suis en face de la réalité, je dis, mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je connais bien quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Je suis en état d'admiration. Quelque chose qui me dépasse. Vous voyez, l'admiration qu'on est devant, par exemple, quelqu'un qu'on aime bien, on l'aime, alors on est en état d'admiration. C'est normal d'être en état d'admiration devant un ami. Et je crois que c'est même peut-être le petit signe qu'il est mon ami, parce qu'il suscite en moi une admiration. S'il ne suscitait en moi aucune admiration, ce serait un homme dont je me servirais, mais ce ne serait pas mon ami. Quand il suscite en moi une admiration, ah, Il y a quelque chose qui fait que je le considère comme me dépassant. Est-ce que c'est pas ça le signe même de tout amour d'amitié? C'est quelque chose qui me dépasse. Alors on a l'admiration, vous voyez, esthétique, celle-là on la connaît très bien, quand vous êtes en face d'un chef-d'œuvre, oh, bouche bée, hein, on est là. Oh. Vous voyez, l'admiration esthétique, l'admiration affective, l'admiration dans l'ordre proprement de l'intelligence. C'est plus secret. Et je crois que cette admiration n'arrive que quand il y a une certaine intuition, où je découvre quelque chose que je n'avais pas découvert avant. L'angoisse, ça naît de quoi? C'est un état affectif, l'angoisse. Hein, l'angoisse me conduit plutôt à l'inhibition. C'est plutôt ça. L'angoisse fait que je rejette tout. L'angoisse ne fait pas naître l'interrogation. L'angoisse provient, il me semble, d'un primat de la négation. Je crois que si toutes les déterminations disparaissent, ça crée un vide. Et ce vide fait qu'à partir de là, il y a un état d'angoisse. Je suis sur l'abîme. Vous voyez, le vertige de l'intelligence. Le vertige de l'intelligence, c'est l'intelligence ne peut plus mesurer. Elle est rassurée quand elle mesure. L'intelligence ne peut plus définir. Elle est rassurée quand elle définit. Parce que toutes les déterminations s'en vont, sont abolies. Alors, parce que toutes les déterminations sont abolies, il se crée un vide. Et à ce moment-là, l'angoisse prend possession de l'esprit. Il ne peut plus s'accrocher à rien. Et le primat de la négation provient de l'oubli de l'expérience. Je dirais presque de l'oubli du jugement d'existence. Je me demande s'il ne faudrait pas aller jusque-là. Est-ce que ce n'est pas l'oubli du jugement d'existence qui, de fait, met un primat de la négation? Et ça, c'est très important. Parce que je crois qu'on peut dire que la modernité, telle qu'on pourrait la préciser au point de vue philosophique, provient du primat de la négation sur l'affirmation. Alors si c'est bien cela, on comprend comment ce primat de la négation va mettre un rejet de toute détermination, de toute définition. On va se purifier de tout cela, on comprend, du reste, c'est très compréhensible, hein, historiquement, dans la mesure où justement la pensée est devenue uniquement logique, la définition a pris une place qu'elle n'aurait pas dû prendre. Alors on veut purifier cela, vous voyez, c'est comme dans l'art, quand il y a eu certaines formes artistiques qui deviennent trop encombrantes, on veut purifier. Et alors on prend une attitude très radicale de purification. L'ascèse, c'est toujours quelque chose de très radical, c'est une purification. On veut purifier l'intelligence de cette espèce de lien trop fort avec la définition, avec la logique. Alors on se met dans cette attitude d'opposition. Et comment le primat de la négation l'a emporté sur l'affirmation? Je crois que ça provient d'un oubli du jugement de l'expérience. Et en définitive, du jugement d'existence. Notez ça et essayez d'y réfléchir, parce que ça vaut la peine, par rapport à toute la pensée contemporaine. Essayez de comprendre comment l'angoisse a pénétré dans la philosophie. Comment l'angoisse, elle a toujours existé. Hein? L'angoisse a toujours existé, c'est bien évident. Il ne faut pas dire que chez les Grecs, il n'y avait pas d'angoisse. Il y avait l'angoisse. Regardez dans le théâtre. Mais c'était relégué du côté du théâtre. Dans le théâtre, c'est sûr, le tragique implique l'angoisse. Il faut bien. On ne pas y avoir de tragique sans angoisse. Et c'est pour ça que l'angoisse peut nourrir un certain tragique. Et quand on aime le tragique, on nourrit l'angoisse. Et le tragique peut être source, si vous voulez, au point de vue poétique, au point de vue artistique. On comprend cela. Mais au point de vue de la pure intelligence, de l'intelligence qui recherche la vérité, c'est différent. Puisque là, on veut le contact avec le réel. On veut le contact avec ce qui est, ce qui existe. Et que l'angoisse nous coupe de ce contact. Alors à ce moment-là, on comprend comment l'angoisse a la place d'être un élément qui maintient en nous le tragique, peut-être au contraire quelque chose qui nous inhibe complètement et qui nous empêche d'avancer au point de vue philosophique. Alors, vous me direz, mais l'angoisse a été pour certains philosophes source d'un certain progrès philosophique. Oui, dans la mesure où je crois la philosophie va prendre une tournure plus artistique, plus esthétique. Alors à ce moment-là, oui. Exactement comme pour le tragique. Une philosophie tragique est une philosophie qui aime l'angoisse et qui maintient l'angoisse. Parce que je crois qu'il ne peut pas y avoir de tragique sans l'angoisse. Alors on comprend comment, au point de vue artistique, on peut maintenir une certaine attitude d'angoisse. Vous voyez, au point de vue artistique, l'inspiration, c'est Mallarmé qui dit ça avec beaucoup de force, l'inspiration réclame la négation de tout ce qui est avant. Puisque l'inspiration fait apparaître une forme nouvelle, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Autrement, il n'y a pas d'inspiration. Et donc, l'inspiration implique une rupture à l'égard de tout ce qui est avant. Et cette rupture à l'égard de tout ce qui est avant, c'est forcé, elle se fait parfaitement dans l'angoisse. Donc, on peut comprendre un lien entre l'inspiration et l'angoisse. Il y a un certain lien qui peut se faire. Parce que l'inspiration doit être justement quelque chose qui me met en face de quelque chose d'inédit. L'inspiration n'est jamais en continuité avec l'expérience. C'est la très grosse différence entre la démarche philosophique et la démarche artistique. Dans la démarche philosophique, il y a une continuité entre l'expérience et tout ce que nous allons voir progressivement. Il y a une continuité. Tandis qu'au contraire, la démarche artistique implique une rupture. Il y a le ex nihilo, hein. Et c'est très curieux parce que Heidegger le rappelle, et il y a le ex nihilo, on parle de création artistique, et la création artistique implique qu'il y a donc une négation de tout ce qui n'est pas ce qu'on va faire. Autrement, on répéterait, la continuité serait une répétition, et donc ce serait quelque chose qui irait contre le point de vue de l'inspiration. L'inspiration a quelque chose, justement, de tellement fort que ça veut tout reprendre à partir de rien. Et c'est pour ça qu'il y a une discontinuité. Et ça, c'est important, justement, on le verra au point de vue philosophique, connaissance artistique. Mais c'est intéressant parce que je crois que si on regarde le point de vue de l'admiration et le point de vue de l'angoisse, il faut saisir que l'angoisse implique toujours un primat de la rupture. Donc un primat de la négation. Et ce primat de la négation ne peut naître parfaitement que dans la mesure où, justement, il y a un oubli de ce qui me met en contact direct avec la réalité. Alors, continuons. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Et je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait bien comprendre dans cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce l'être? Il faut bien comprendre, est-ce que la signification de être ici est la même que dans le mouvement d'existence ceci est, ou la signification de l'être est tout autre, qui implique une rupture? Y a-t-il continuité, y a-t-il rupture? Y a-t-il continuité entre ce jugement d'existence et l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et quand je dis continuité, ça veut dire que la signification de l'être est la même que la signification de ceci est. La continuité du côté de la signification. Ou au contraire, y a-t-il une rupture ? Alors là, vous avez deux positions qui sont intéressantes à préciser, justement. La position de Heidegger, il n'y a pas de continuité. Il ne peut pas y avoir de continuité. Parce que d'un côté, nous sommes en présence des états. Et ici, on est en présence de l'être que seule l'intelligence peut saisir. Pensez l'être. Je suis en face de l'être qui se donne à moi dans toute sa pureté. Donc il y a une rupture et c'est pour ça qu'il faut l'angoisse. L'angoisse permet cette rupture. Le premier ciel s'en va pour un second ciel, le ciel de la résurrection. Donc, on voit très très bien ça. Mystiquement, ça se voit très bien. Donc une néantisation de tous les états précédents, toutes les expériences, tout ce qui me met en contact avec le réel, les réalités que je vois, et moi-même du reste, parce que je suis aussi un étang d'une certaine manière, et je suis plus qu'un étang, puisque je suis capable de penser l'être, et au moment où je pense l'être, je suis plus, j'entre dans quelque chose d'autre, dans un horizon différent, l'horizon de l'être. Et la raison de l'être est tout autre chose que le point de vue du néant, de l'état. Donc, il faut la négation, cette négation vécue dans l'angoisse, pour que tous les états disparaissent et toutes les déterminations disparaissent. Est-ce qu'on peut essayer de dire autre chose ? Quelle différence y a-t-il entre le jugement d'existence ceci est et qu'est-ce que c'est que l'être ? Il y a une continuité, tout simplement, du côté du verbe. C'est le même verbe. Dans deux états différents, le présent et l'infinitif. Deux formes grammaticales différentes. Qui indiquent quelque chose. C'est que d'un côté, je suis en face de quelque chose de concret, ceci est. Et de l'autre côté, je suis en face de l'abstrait. Alors, est-ce qu'il ne faut pas ici réfléchir sur ces deux modalités de ma pensée, blanc, blancheur. La signification de blancheur est la même que celle de blanc. Parce que qu'est-ce que c'est que la blancheur ? C'est ce par quoi le blanc est blanc. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est ce par quoi est. Donc il faut saisir le point de vue du mode abstrait, du mode concret. Le mode abstrait permet à l'intelligence d'objectiver, de thématiser, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire de projeter devant moi quelque chose qui, autrement, n'était pas uniquement devant moi. Vous allez tout de suite saisir. Quand je dis ceci est relatif à ceci. Quand je dis qu'est-ce que c'est que l'être, l'être est pris comme un absolu. Donc ici, est pris relativement au nom ceci, tandis que être est pris d'une façon absolue. Voilà comment je puis thématiser l'être, parce que je le sépare de son support et s'appuie sur le ceci. Ceci est. Il est relatif. Au point de vue de la forme grammaticale, c'est très net, hein, c'était facile à comprendre. Et la forme grammaticale exprime ce que moi-même je pense. Quand je dis ceci est, ça exprime que est saisi relatif au ceci. Je peux l'isoler pour savoir ce qu'il est en lui-même et pour lui-même. Et alors à ce moment-là, c'est le pouvoir de l'intelligence. C'est très beau ça, de saisir là comment l'intelligence est capable de séparer. Elle peut séparer. Elle sépare et du ceci. Et en séparant, elle donne à et toute sa valeur. Et elle l'exprime par la forme infinitive, parce qu'à ce moment-là, elle fait du verbe comme un nom. La forme infinitive, l'infinitif, hein, peut donner au verbe la fonction du nom. Puisque je peux dire l'être est analogique. Je prends être comme le nom. Et ça, c'est le propre de l'infinitif, de donner au verbe une valeur d'absolu. Et en donnant au verbe une valeur d'absolu, on le situe en face de l'intelligence comme ce que je dois connaître, comme ce qui doit déterminer mon intelligence. Et quand je dis ceci est, qu'est-ce qui détermine mon intelligence? Est-ce ceci ou est? Difficile à savoir. C'est les deux en même temps. C'est ça qui détermine mon intelligence. Et comme le ceci est de l'ordre de la détermination et que l'intelligence est sensibilisée en premier lieu par le point de vue de la détermination, l'intelligence a toujours beaucoup de peine de dépasser les catégories. Et pour mettre alors en pleine lumière et, je lui donne une forme abstraite. Exactement comme blanc-blancheur. C'est plus facile quand on prend blanc-blancheur, mais en disant blancheur, vous donnez à blancheur une valeur unique. Alors la question demeure, l'intelligence respecte ce qu'elle connaît. Alors est-ce que l'intelligence va respecter dans le ceci est? C'est ça qu'elle veut connaître. Elle veut connaître le est, donc elle va le respecter pour le connaître. Elle va l'isoler pour le mieux le connaître. Quelle est l'intention de l'intelligence? Quand l'intelligence pose qu'est-ce que c'est que l'être? L'intelligence veut connaître l'être dans toute sa force. C'est son intention, c'est son appétit naturel. Et elle l'isole pour cela, pour le mettre bien en face d'elle, et pour pouvoir le regarder. Et le regarder justement tel qu'il est, en lui-même. Alors, cette modalité particulière de la forme abstraite, blanc, blancheur, c'est de vouloir connaître une forme, c'est de vouloir connaître être dans ce qu'il a de plus lui-même. Et donc, cette modalité abstraite ne change pas la signification de ce que l'intelligence veut connaître. Autrement, l'intelligence se tromperait à elle-même. Et l'appétit de l'intelligence, qui veut connaître ce qu'est, serait dupe de cette propre forme abstraite. Et alors, ce ne serait plus naturel. Il faudrait dire que l'intelligence est perverse. Je crois qu'on peut aller jusque-là. Si j'essaie de comprendre ça, parce que ça se fait naturellement, hein, c'est pas moi qui ai inventé blanc-blancheur, pas vous non plus. C'est pas vous qui avez inventé l'interrogation. Non, non. Curieux, ça. Mon intelligence interroge. C'est naturel, l'intelligence interrogée. Pourquoi c'est naturel l'intelligence d'interroger? Parce que l'intelligence implique un devenir. Elle ne connaît pas tout d'un seul coup. Si elle connaissait tout d'un seul coup, si elle était uniquement intuitive, elle n'interrogerait jamais. Les esprits très intuitifs n'interrogent pas beaucoup. Parce qu'ils en ont tellement par l'intuition. Alors ils n'interrogent pas beaucoup. Les esprits peu intuitifs interrogent beaucoup plus. Ça c'est vrai, c'est deux formes d'intelligence. C'est pas opposé, mais c'est quand même très très différent. Celui qui interroge, il veut creuser. Parce qu'il considère que l'intuition qu'il a n'est pas suffisante. Ça l'éveille, toute intuition éveille, mais c'est pas suffisant. Donc on veut aller plus loin. C'est donc l'appétit d'une intelligence en devenir. L'intelligence interroge parce qu'elle est en devenir, parce qu'elle ne connaît pas tout et qu'elle veut aller plus loin. C'est donc un appétit naturel de l'intelligence. Quand elle interroge. Et donc quand elle interroge, elle veut atteindre ce qu'elle a mis en pleine lumière. Et pour le mettre en pleine lumière, elle l'a mis sous cette forme abstraite. Alors si la signification de ce qui était mis en abstrait, qui était pris d'une façon abstraite, n'était plus la même, l'intelligence tomberait dans son propre piège. Et donc, il n'y aurait plus cet appétit naturel à l'égard de la vérité. Il y aurait une perversion, l'abstraction, le passage du concret à l'abstrait serait une perversion de l'intelligence. Ce serait l'intelligence qui, à la place de chercher objectivement ce qu'elle veut atteindre, ce serait l'intelligence qui se retournerait sur elle-même et qui voudrait se considérer elle-même, en premier lieu, et non plus ce qu'elle veut saisir. Revenez toujours à l'exemple blanc-blancheur. Quand j'interroge qu'est-ce que c'est que la blancheur, mais je veux savoir ce que c'est que le blanc. Puisque la blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. C'est pour ça qu'instinctivement, quand je me pose la question qu'est-ce que c'est que la blancheur, je reviens à l'expérience de la blancheur, du blanc. Parce que je n'expérimente pas la blancheur. Comme je n'expérimente pas être. Je n'ai aucune expérience de l'être. J'ai l'expérience de ceci. Un au-delà de l'expérience, mais c'est lié à l'expérience. Là, mon intelligence saisit quelque chose, tandis que blancheur, non. Et être, non. C'est très curieux, ça. Vous voyez, ce moment où l'intelligence se sépare du sensible. C'est car ça s'appelle l'intelligence séparée, le nous séparé. Le nous séparé, c'est quand l'intelligence interroge en abstrayant. Qu'est-ce que c'est que alors ça, c'est vraiment l'intelligence qui se sépare du sensible pour s'élever. Elle décolle, c'est le moteur, c'est comme en avion, quand on reste sur la piste, et puis à un moment, on décolle. C'est impressionnant, du reste. Hein. La première fois qu'on prend l'avion, c'est impressionnant, comme quand on dégringole et qu'on tombe sur la terre. Bon, c'est l'intelligence liée au sensible. Hein. Ça, c'est l'intelligence liée au sensible. Et puis, à un moment donné, l'intelligence décolle. Qu'est-ce que c'est que l'être? Ça, vraiment, si vous prenez ça en essayant de comprendre exactement, vous comprenez l'intelligence des codes, parce que l'être, jamais les sensations, jamais aucune sensation, aucun de nos sens ne peut saisir l'être. Seule l'intelligence saisit l'être. Elle ne saisit pas l'être selon son mode abstrait, elle le saisit selon un mode concret. C'est pour ça que c'est impressionnant de saisir le domaine où l'intelligence pénètre seule. Ayez dans votre esprit, Parménide, on passe les portes de la Dikée, là où les sens ou l'homme ne pénètre plus. Parce que pour les Grecs, l'intelligence, quand elle était séparée, elle était divine. C'est l'intelligence divine, l'intelligence séparée, pour les Grecs. C'est beau du reste de dire ça. L'intelligence, quand elle est liée au sens, c'est pas l'intelligence séparée, c'est l'intelligence de l'homme. À un moment donné, il faut passer les portes de la Dikée, le poème de Parménide. Je vous dis, il faut lire le poème de Parménide, parce que c'est quand même très très important, ça. Ça joue énormément au point de vue de notre vision, et c'est beau du reste, c'est très beau. À un moment donné, l'intelligence dépasse les portes de la Dikée et entre pour saisir l'air. Alors là, évidemment, elle ne l'interroge pas, elle le reçoit comme, pour Parménide, elle le reçoit comme un don de la déesse. Ce serait évidemment plus facile. Vous voyez, alors à ce moment-là, confusion entre l'interrogation et l'attitude de foi. Nous faisons bien la distinction. Le croyant, il reçoit. Il n'interroge pas en premier. C'est pour ça que les intellectuels n'aiment pas beaucoup la foi. Parce que s'ils reçoivent, l'intellectuel, il aime d'interroger. Il aime d'interroger toujours, hein, à temps et à contre-temps. Or, la foi, recevoir. Alors, dans le poème de Parménide, on voit bien ça, on reçoit de la déesse l'être. C'est merveilleux de recevoir ça. Cadit in intellectu, hein, il tombe dans l'intelligence. Et on reçoit ça. On reçoit l'être. Alors pour nous, non, on le découvre, on le dévoile. L'être, c'est l'intelligence qui, dans son appétit profond, alors interroge qu'est-ce que c'est que l'être. Et vous voyez, c'est ça qui est aussi très beau, parce que ça fait comprendre comment on peut tout de suite interroger qu'est-ce que c'est que l'être, sans très bien savoir ce que c'est. Mais tout l'appétit de l'intelligence est tourné vers ça. Alors, c'est important de comprendre que la signification de être et de est, c'est la même. Si c'est la même, comme je ne connais pas parfaitement ce que c'est que l'être, je peux donc revenir à la réalité et à mon expérience pour savoir ce que c'est que l'être. Tandis que si il y a une rupture entre l'expérience et l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, je ne peux pas revenir. C'est la position d'Heidegger. Et donc, on est coincé. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je ne peux connaître ce que c'est que l'être qu'en réfléchissant sur mon interrogation. L'être est né dans l'interrogation. L'être est né dans l'interrogation, sous sa formule d'absolu. Je ne peux le découvrir qu'en regardant mon intelligence qui interroge. Et là, à ce moment-là, vous voyez bien, ce n'est plus la réalité, c'est mon intelligence qui apporte la signification de l'être. Alors, il y a quelque chose de très subtil hein, dans cette attitude-là. C'est que, en effet, l'être n'est parfaitement à l'aise que dans l'esprit, et pas dans le petit caillou. Alors, je comprends très bien. Je réfléchis sur mon interrogation pour découvrir ce que c'est que l'être. Parce que l'être est parfaitement à l'aise que dans l'homme qui interroge et que dans l'esprit. Et donc, si je veux vraiment saisir l'être, je dois regarder l'être, je dois regarder l'homme qui interroge et non pas ce jugement d'existence tout simple de n'importe quelle réalité ou de moi-même. Parce que quand je dis j'existe, je touche mon corps. Donc je touche le petit caillou. Même je touche mon corps, le petit caillou. C'est du même ordre. C'est de l'ordre sensible. Or, l'être est au-delà du sensible. Et vous revenez au sensible.